Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. Et soudain, nos écrans qui s'embrasent. Et soudain, cette fumée blanche qui devient comme un champignon nucléaire à l'image. Et soudain, ceux qui filmaient qui tombent à terre. Et soudain, on n'en revient pas. Beyrouth, début août, l'apocalypse, la déflagration emporte tout sur son passage, tous les sujets, le port du masque, la suractivité de Castex, la vie dans les campings, tout est balayé. Place à des Libanais choqués, hébétés, blessés. Place à la télé, à la sidération à voix haute. Place à ce témoignage d'une journaliste du quotidien L'Orient le Jour.
Apocalyptique, oui, peut-être. Peut-être plus que l'apocalypse, je ne sais vraiment pas ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'essaie de digérer mes émotions. J'arrive pas à comprendre que ma ville n'existe plus. C'est comme si c'était, ce n'est même pas, c'est comme si un tremblement de terre de 8 degrés sur Richter qui a touché une ville entière, qui a touché trois quartiers de la ville, trois ou quatre quartiers.
Patricia Coderre, journaliste à L'Orient le Jour, hier soir à Chaux, vous l'avez réentendu ce matin sur Europe 1. Alors, nos pensées pour le Liban, déjà à terre économiquement, nos pensées par les ondes. Beyrouth en direct dans un instant avec l'une des rédactrices en chef de L'Orient le Jour, Émilie Sueur, car il a bien fallu faire un journal. Comment travaille-t-on quand tout est effondré? Nous serons aussi avec le photographe réalisateur Philippe Aratindji. Autre sujet dans la partie média, inviter le patron de Sopress, Franck Hanez. Le second volet de la grosse enquête sur l'affaire du pont de Ligonnès sort demain dans Society. Y aura-t-il à nouveau pénurie dans les kiosques? Et puis après 10 heures, les 25 ans d'un film phénomène. La haine ressort en salle dans une version restaurée. Nous serons avec son réalisateur Mathieu Kassovitz. Culture Média d'été en direct jusqu'à 11h et ça commence maintenant. Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Place au journal des médias. Martin, qu'avez-vous aujourd'hui?
5064, 174. France 4 est morte, vive France 4. Et Squeezie deviendra grand.
Les audiences, immédiatement, s'il vous plaît.
Hier, c'était qui s'impose avec la série Joséphine Ange Gardien, 3 millions de téléspectateurs. Juste après, dans un mouchoir de poche, France 3 avec son téléfilm Quand vient la peur, 2,5 millions de téléspectateurs. Et pour fermer ce podium, France 2 avec le magazine de Stéphane Bern, Si les murs pouvaient parler, 2 400 000 téléspectateurs. Et vous allez me demander, force spéciale, j'imagine?
Bah, j'aimerais bien, ouais.
Est-ce que vous avez regardé?
Non. Je l'avais déjà vu pour préparer l'émission.
Peu de Français ont regardé. Grosse déception. 1 500 000 téléspectateurs, c'est 8% du public. C'est vraiment pas vraiment.
Ça vaut bien la peine de ramper.
Jingle.
Culture Média.
On savait depuis longtemps, Martin, que Netflix rechignait à payer ses impôts. On connaît la somme réglée par la plateforme pour l'année 2019.
5064, 174 euros.
En France?
En France, ouais. En 2019, Netflix a fait au fisc français un chèque de 5064, 174 euros. L'an passé, au moment de remplir sa déclaration de revenus, Netflix a en fait mis dans la case chiffre d'affaires 26 millions d'euros. Le magazine Capital, qui révèle l'info, lui, a fait un tout autre calcul. La France et ses près de 7 millions d'abonnés rapporteraient à la plateforme numéro 1 dans le monde 800 millions d'euros. 30 fois plus que ce que déclare Netflix chez nous.
Et c'est légal ?
Parfaitement légal, parce que Netflix en Europe a son siège aux Pays-Bas. Dans le duché, les entreprises ne payent vraiment pas beaucoup d'impôts. Alors avec sa filiale française, la plateforme réussit un joli tour de passe-passe, avec un jeu compliqué d'optimisation, de filiales, de remontées, de refacturation, de sous-division et de bricolage fiscal. En tout genre.
Netflix qui, par ailleurs, est au cœur d'une polémique depuis quelques heures avec une nouvelle fonctionnalité.
Vous trouvez que je parle vite, Pascal? Vous comprenez ce que je suis en train de
non,
dire? Vous
aimeriez
regarder un film ou une série sur Netflix ce soir? Ça, c'est la toute nouvelle fonctionnalité de Netflix. Si vous avez un téléphone Android ou une tablette, vous pouvez dorénavant regarder La Casa del Papel ou The Crown en accéléré. C'est cette nouvelle option proposée juste à côté du sous-titrage ou du choix de la langue ou de la haute définition. Alors, pour être honnête, moi, j'ai pas encore retrouver sur mon téléphone exactement comment faire.
Oh bah d'ici un ou deux mois, vous saurez, non?
J'ai essayé, ouais. j'ai tapé, mais je suis sûr que vous pourriez m'aider, vous êtes plus habile que moi avec le téléphone.
Non, technique, je suis pas sûre.
Selon les premiers utilisateurs, ceux qui ont trouvé comment faire, et bien sur un épisode d'une heure, on peut gagner jusqu'à 20 minutes, un tiers du temps. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Vous pouvez ralentir votre série en mode comme ceci. Netflix dit que c'est idéal si vous voulez profiter de chaque moment devant une scène d'amour, par exemple. Vous savez, quand vos deux héros finissent enfin par s'embrasser, bah oui, c'est beau les gens qui s'embrassent.
Mais en cas de scène d'amour, on accélère ou on ralentit? C'est
mais
selon.
Non, on veut voir les gens justement qui
s'embrassent. Pas forcément, vous savez, il y en a qui sont pas belles. Forcément, en tout cas, ça ne plaît pas à tout le monde.
Ben non, parce que les réalisateurs et les acteurs sont furieux parce que ça dénature leurs films et leurs séries. Les médecins aussi s'inquiètent avec le speed watching, c'est comme ça que ça s'appelle. Notre cerveau n'a pas fini d'être ultra stimulé, voire stressé. Bon, le patron de Netflix s'en moque un peu, vous me direz. Il y a quelques années, devinez quel était, selon lui, le pire ennemi de Netflix.
Je ne sais pas.
Le sommeil.
Ah bah oui, forcément. Et pour les pubs, on peut accélérer aussi. Bon, ça y est, cette fois c'est sûr, Martin, fini les rumeurs dans la presse ou les spéculations, c'est officiel. Le gouvernement vient de se prononcer sur le sort de France 4 et France O.
C'est officiel, France 4 reste sous assistance respiratoire pendant encore un an. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a eu pouvoir de vie ou de mort sur la chaîne. Alors ce n'est pas de la grande prose, mais voilà ce que l'on peut lire dans le communiqué de la rue Valois. Dans un contexte sanitaire qui demeure incertain, le report momentané de la fermeture d'une chaîne avec des programmes destinés à la jeunesse et pouvant servir de relais pédagogique complémentaire apparaît souhaitable.
Là, vous auriez pu accélérer.
Alors comprenez, je vous fais la traduction entre les lignes, ça veut dire tant qu'il y aura le corona, France 4 persistera. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu la même chose au Royaume-Uni. L'équivalent de France 4, c'est BBC 3 et le gouvernement de Boris Johnson pourrait bien ressusciter sa chaîne jeunesse le temps du virus.
Pour France O, en revanche, cette fois, pas de doute, c'est la fin.
Le canal 19 va disparaître le dimanche 23 août avec deux semaines de retard.
Autre chose, et ça a l'air important, Squeezie quitte Webedia.
C'est super important même. Squeezie, de son vrai nom, Lucas Auchard, 24 ans, c'est l'ado le plus connu sur YouTube ou Twitch, c'est l'ado dont les vidéos sont les plus vues, c'est l'ado qu'il faut absolument connaître si vous avez des ados à la maison. De l'autre côté, Webedia, c'est Internet, ce que TF1 est à la télé ou Netflix au streaming. C'est l'écurie de tous ces nouveaux talents de moins de 25 ans. C'est la maison qui gère leur carrière, leur image et tout leur argent. Beaucoup d'argent d'ailleurs. Bref, Squeezie et Webedia, c'est tout ce qui compte sur Internet. Mais le plus beau des mariages vient de voler en éclats. Squeezie, en ado qui grandit, veut voler de ses propres ailes. Écoutez.
J'ai quitté Webedia, qui est le network, la régie commerciale avec laquelle je travaillais depuis 4 ans, pour finalement prendre mon envol et devenir 100% indépendant. Et il se trouve que mon studio, celui-là là, il était chez Webedia, c'était dans les bureaux de Webedia. Donc ayant quitté le network, bah je vais pas aller dans le studio et continuer de tourner là-bas alors que je suis plus chez eux. Et comme j'ai Yoko, le projet musique et bah les vidéos, les OP etc. qui continuent, je me suis dit bah vas-y je vais louer des bureaux. Et tous ces gens qui sont des amis avant d'être des gens avec qui je travaille, je vais les mettre dans les bureaux avec moi et je vais me créer mon petit pôle de bienveillance et de gens stylés avec qui je vais bosser et être 100% indépendant dans mon coin.
100% indépendant, bon ce n'est pas très surprenant. Au printemps dernier, Webedia avait lancé une grande émission live sur Internet avec des humoristes qui venaient parler, blaguer, manger entre eux, jouer ensemble. Ce fut un échec comme on a rarement vu. Et Squeezie, eh bien, il les avait étriés.
Ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion. Et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça.
Oh, l'ingratitude
c'est
du gamin.
C'est un ado rebelle. Ah, un ado rebelle. Squeezie, c'est aussi un chanteur d'ailleurs depuis peu, je sais pas si vous savez. Ça donne ça, on va écouter quelques notes.
T'es pas la plus belle fille de Paris. Arrête un peu de faire ton petit numéro. Tu veux qu'on se fasse du mal quand je veux qu'on soit égaux. Mais ce que du cœur à devoir jouer les héros, je crois que j'ai trouvé celle qui sera mon alter ego.
C'est de la prose là aussi, j'ai envie de trouver celle qui sera mon alter ego.
Peut-être que Squeezie va se faire squeezer un de ces jours, non?
Ah, vous l'avez, j'aurais aimé la faire celle-ci. Ça, c'était Guépard d'ailleurs, la chanson featuring avec Némir. Album prévu dans moins d'un mois, le 1er septembre avec son alter ego.
Merci beaucoup Martin Cangelosi pour le journal des médias. Dans quelques minutes, nous allons partir par téléphone à Beyrouth. D'abord, mon disque du jour. Ben oui, c'est elle, Amy Winehouse, Back to Black. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Belle matinée à vous.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Beyrouth en direct, Beyrouth au lendemain de la double explosion dans le port de la capitale libanaise, une ville dévastée, un bilan provisoire qui s'élève à une centaine de morts et plus de 4000 blessés. Et pourtant, il a bien fallu faire un journal. Bonjour, Émilie Sueur.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef au quotidien L'Orient, Le Jour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Il est 10h22 en ce moment à Beyrouth. Où êtes-vous exactement et dans quel quartier ?
Alors là, moi, je suis de retour au bureau. On est dans la banlieue de Beyrouth, à une quinzaine de kilomètres du port, à Paul Poiseau.
Est-ce que les locaux de votre journal ont souffert ?
Ils n'ont pas souffert, mais hier, au moment de l'explosion, ça a bien tremblé. On a pensé d'abord que c'était un séisme, en fait.
Un séisme, ça a été ça, votre première réaction. Où vous trouviez-vous, Émilie Sueur, quand a eu lieu cette première, puis cette seconde explosion terrible? Les images sont incroyables.
J'étais au journal, donc effectivement, enfin, tout l'immeuble... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord reçu des vidéos de ce qui ressemblait à un incendie au port, et le temps qu'on essaye de comprendre ce qui se passait, l'explosion a eu lieu, tout l'immeuble a tremblé. J'ai crié aux journalistes de sortir du journal des locaux parce que je pensais vraiment que c'était un séisme, et puis on a vu la colonne de fumée et là on a compris que c'était autre chose.
Dans quel état s'est réveillée la ville, Émilie Sueur? Toujours la sidération, j'imagine. Vous avez fait le trajet entre votre domicile et les locaux de L'Orient Le Jour ce matin?
Déjà, hier soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai roulé pendant de longues, longues minutes sur du verre. La ville, tout l'asphalte est jonché de débris de verre partout. Des trottoirs, la route, tout. Les façades, la façade de l'immeuble en face de chez moi a été soufflé. L'encadrement des fenêtres tombe à moitié dans le vide. La ville, je ne sais pas si beaucoup de gens ont dormi, parce que c'est compliqué. Je pense que ce matin, tout le monde est toujours dans un espèce d'état de sidération. Les gens dans la ville ce matin commençaient déjà à dégager le verre, à essayer de mettre des espèces de plaques sur les devantures des maisons, des magasins. J'ai beaucoup de collègues au journal dont les maisons ont été sérieusement endommagées. Des vitres soufflées, des portes qui ont sauté, des meubles qui ont été retournés par le souffle.
Immédiatement ou au bout d'un moment a été prise la décision d'un journal à faire? Vous êtes citoyenne, vous avez vécu ça comme être humain, mais vous êtes journaliste aussi et même rédactrice en chef. Ça s'est décidé comment de faire ce journal, vaille que vaille, malgré tout?
Je ne crois pas que ça se décide, ça se fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, en fait. Il faut le faire, ce journal. Donc, on a des journalistes qui étaient à Beyrouth, qui nous envoyaient des informations. On a d'autres journalistes. Là où c'était un peu compliqué, c'est comme vous le dites, c'est-à-dire que ça nous touche directement. Donc, un certain nombre de journalistes, apprenant que leur maison était dévastée, ont eu un petit moment de flottement, ce qui est normal, c'est compliqué. Et puis, tout le monde s'est remobilisé et tout le monde... a compris, sans qu'on le dise, qu'il était très important de faire ce journal.
Comment avez-vous procédé? Comme d'habitude, si on peut dire?
Alors, pas vraiment, parce que Internet a sauté, le site a sauté, tout a sauté. On s'est débattu avec nos techniciens informatiques qui, eux aussi, ont vu leurs locaux dévastés, donc avec leurs ordinateurs qui avaient sauté, qui ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de reconnecter tout ça. Donc on a travaillé avec... les journalistes ne pouvaient pas remonter au journal, donc ils nous ont envoyé des informations par téléphone, on a construit des articles avec ça, on a fait comme on a pu.
Et effectivement, peut-être que ça tient du miracle, L'Orient Le Jour est en vente aujourd'hui, alors je ne sais pas si beaucoup de gens vont l'acheter, effectivement, mais quelle est la une?
Alors la une, on a un mot, c'est l'apocalypse. On a deux énormes photos, une photo de la zone du port dévastée et une photo de victimes évacuées dans une panique totale. Et un petit texte qui explique grosso modo que nous sommes tous sonnés et qu'il est très difficile de trouver les mots, très difficile de comprendre comment cette catastrophe a pu arriver dans un pays déjà à genoux, qui plus est.
Parce que au moment où on se parle, donc 9h26 à Paris, 10h26 à Beyrouth, il n'y a toujours pas d'explication. Et c'est évidemment impossible pour vous, j'imagine, d'enquêter. Que faisait ce nitrate d'ammonium, ces 2700 tonnes stockées dans cet entrepôt? Comment faire pour enquêter?
Là, on essaye, on appelle des contacts au port. Le directeur des douanes vient d'annoncer qu'effectivement, un entrepôt de feux d'artifice était situé juste à côté de l'entrepôt du nitrate d'ammonium. Mm-hmm. Très malin, a priori. Mm-hmm. Les premières informations qui filtrent, c'est qu'il y aurait eu des travaux de maintenance au niveau de l'entrepôt et que bon, peut-être lors de ces travaux, une flamme est sortie lors d'une opération de soudage ou quelque chose comme ça qui avait littéralement le feu aux poudres. Mais bon, tout ça, pour l'instant, on en est encore aux supputations. C'est-à-dire que là, il y a encore un balai d'hélicoptères sur la zone. Donc, il y a encore des victimes sous les décombres, probablement. Donc, c'est très difficile d'avoir une compréhension claire. Mmh.
C'est une journée de deuil, je le précise, qui a débuté à Beyrouth. Qu'allez-vous faire aujourd'hui, le journal de demain ?
Ben écoutez, nos journalistes là, sont sur le terrain. On les envoie dans les hôpitaux, on les envoie à travers Beyrouth, voir comment les gens s'en sortent. On a des témoignages là déjà d'une personne qui nous disait qu'elle a eu l'impression qu'un cyclone a traversé son appartement, tout est retourné. Et les gens sont perdus parce que les dégâts sont tellement massifs qu'on se demande, ils ne savent pas par où commencer en fait. Mm. Donc ils essaient juste de pousser des fenêtres. C'est de fermer une porte qui n'existe plus.
Et un bilan qui, hélas, provisoire, qui s'élève pour l'instant à une centaine de morts et à plus de 4000 blessés. Merci beaucoup à vous, Émilie Soeur, d'avoir été en ligne avec nous, rédactrice en chef au quotidien L'Orient le Jour. On vous envoie des pensées et on vous envoie la force qu'on peut avoir. Merci.
Merci à vous.
En ligne, dans un instant, un nouveau témoignage, celui du réalisateur, documentariste et photographe Philippe Arantinji, toujours en direct de Beyrouth. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et nous sommes toujours en direct de Beyrouth, en ligne maintenant avec le réalisateur, documentaire, producteur de cinéma et photographe franco-libanais Philippe Arantinji. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous répondre. Où êtes-vous actuellement dans la ville de Beyrouth? Où vous situez-vous?
Écoutez, hier, après avoir nettoyé les vitres cassées chez nous dans notre appartement à Beyrouth, après avoir fait le tour de mes proches, c'est-à-dire ma mère, ma grand-mère, ma sœur, nous avons décidé de monter à la montagne pour dormir un peu plus tranquillement. On va redescendre tout à l'heure pour continuer à nettoyer et voir l'ampleur des dégâts.
Mmh, donc vous avez quitté la ville pour prendre un petit peu de hauteur et vous allez y revenir aujourd'hui, Philippe Arantinji. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour vous? Comment vous avez vécu cette double explosion hier soir?
C'est-à-dire qu'en plus, des dégâts matériels, on a aussi la crainte du fait que il y a peut-être le couple du nitrate est peut-être mauvais pour les bronches et pour la respiration. On a tellement peur, c'est pour ça qu'on a pris le sud.
Philippe Arantinji, je suis vraiment désolée, mais la liaison est hélas trop mauvaise pour que vos propos soient compréhensibles. Je vais encore tenter une question pour voir si ça s'arrange un tout petit peu. Et je repose la même question. Comment avez-vous vécu hier soir cette double explosion? Parce qu'on n'a pas compris, hélas, votre réponse.
En fait, il y a un écho apparemment.
Oui, allez-y, ça a l'air d'aller. Oui, ça va un peu mieux, allez-y.
Voilà, donc nous étions à la maison, ma femme, ma fille et moi. On a cru effectivement un tremblement de terre, une explosion incroyable. Une vitre s'est cassée à quelques centimètres de nous. Heureusement, elle ne nous a pas touchés. On s'est couché au sol, on n'est pas à comprendre. On a vécu énormément de guerre et celle-ci, on n'a jamais expérimenté. Et donc, évidemment, la peur, s'assurer que tout va bien, téléphoner à tous les proches pour savoir que tout va bien, puis commencer à sortir pour aller voir ma grand-mère, ma mère et tous les proches. Là, voir la
catastrophe. Excusez-moi, Philippe Aratindi, je suis vraiment confuse, mais hélas, la liaison est trop mauvaise pour qu'on puisse comprendre vos propos. Je vais donc devoir mettre fin à cette conversation et j'en ai un petit peu le cœur brisé, je vous dis la vérité, parce qu'on aurait bien aimé vous écouter, mais là, c'est vraiment pas possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un disque et peut-être tenter une nouvelle liaison pour voir si elle est un peu meilleure et surtout si vos propos sont compréhensibles, car là, c'est impossible de vous recevoir malheureusement. A tout de suite, Philippe Aratindi.
D'accord, à tout de suite.
Musique sur Europe 1. Nous avons retrouvé la liaison avec Philippe Aratindi, qui est réalisateur, documentariste, producteur de cinéma et photographe franco-libanais. Vous êtes toujours en direct de Beyrouth. Vous m'entendez, Philippe ?
Oui, je vous entends. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant.
Beaucoup mieux, effectivement. Nous en étions à votre récit hier soir, au moment où, évidemment, vous avez pris des nouvelles de vos proches, c'est ça ?
Écoutez, d'abord, il y avait eu l'explosion. Ensuite, l'étonnement, parce que... Enfin, ensuite, s'assurer que tout le monde va bien, que la vitre qui a explosé à quelques centimètres de nous ne nous a pas touchés. Ensuite, que tous nos proches allaient bien. Donc, heureusement, les lignes de téléphone fonctionnaient encore. Ce qui arrive parfois, elles disparaissent. Puis ensuite, prendre sa moto, pour ma part, prendre ma moto et aller vérifier que ma grand-mère va bien, que ma mère va bien, et découvrir les dégâts dans la ville. Une catastrophe. C'était une catastrophe. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu pareil. J'ai filmé en 2006 pour Sous les bombes, long métrage, la guerre qui a duré 33 jours. Il a fallu 33 jours pour faire l'équivalent de ce qu'on a vécu en quelques secondes, quoi.
Oui, vous n'avez jamais vu ça.
Apocalyptique, quoi.
Est-ce que vous avez eu, le cœur à filmer, à prendre des photos hier où c'était impossible ? Vous étiez sous le coup, sous la sidération ?
Je prends ma caméra avec moi tout le temps. Je prends des photos, effectivement, la caméra, je ne photographie plus juste pour en faire un documentaire ou quelque chose. Je photographie quelque part par réflexe et aussi par défense, parce que quand c'est horrible devant vous, vous avez envie de mettre un objectif et vous défendre de ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement. Donc je fais ça automatiquement sans trop réfléchir. Mais pour moi, pour l'instant, je n'ai pas de projet, je suis sous le choc.
Vous avez une idée de ce qui va se passer déjà dans la journée, puisque c'est une journée de deuil national et que malheureusement, le nombre de victimes s'alourdit d'heure en heure. On est toujours à une centaine de morts, 4000 blessés, des hôpitaux évidemment saturés, l'appel à l'aide internationale. Qu'est-ce qui peut bien se passer maintenant dans votre ville, Philippe Aratindi ?
Écoutez, pour l'instant, nous sommes sous le choc. Nous sommes en train d'apprendre, quand vous dites victime, nous sommes en train d'apprendre que la mère d'une amie est morte, que mon ami a perdu son œil, que la sœur d'un ami a perdu une jambe ou en tous les cas est blessée gravement, et ainsi de suite. Donc nous sommes vraiment en train d'apprendre que notre cercle, petit, moyen, large, est en train d'être... de souffrir, mais dans sa chair, quoi. Donc déjà, nous sommes dans ça. Je pense qu'après le choc, il y aura de la colère. Et après la colère, j'espère des changements au niveau du gouvernement, au niveau de notre pays, parce que nous sommes déjà plus qu'à genoux. Ce qui se pose comme question, c'est comment reconstruire, puisque les banques sont en faillite et qu'elles ne donnent pas accès à l'argent pour que les gens éventuellement sortent leurs économies et reconstruisent un mur détruit, une fenêtre dévastée, un pan de d'immeuble détruit. Donc c'est encore pire que juste une bombe qui a tué des gens. C'est un manque total à tous les niveaux, quoi. Et donc c'est un coup de grâce. Et c'est, voilà, pour l'instant, on est sous le choc.
Ben merci beaucoup d'avoir témoigné, Philippe Aratindi, vous qui êtes réalisateur, photographe franco-libanais. On vous envoie vraiment nos pensées et puis notre amour, pour tout dire. Voilà, et ben on espère que le Liban, qui est toujours parvenu à se reconstruire, va y parvenir une nouvelle fois, même si là, on entend bien dans vos propos que ça va être très très compliqué. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir témoigné, on prendra de vos nouvelles.
Merci, merci beaucoup.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et Culture Média continue avec ce suspense français de l'été. Il y a 15 jours, le magazine Society était resté pour certains aussi introuvable que Xavier Dupont-Ligonnès, à qui il consacrait un très long dossier façon Pulse. Rupture de stock, chasse au trésor sur les réseaux sociaux. On a même vu le numéro en vente jusqu'à 25€ sur le Bon Coin. Il vaut 3,90€ en kiosque. Quelques réimpressions plus tard, et alors que sort demain la suite du dossier consacré à l'affaire, Society va-t-il tenir sa promesse ? Bonjour Franck Hanez.
Bonjour Pascal.
Vous êtes le patron du groupe Sopress qui édite Society. Y aura-t-il à partir de demain une nouvelle chasse à l'exemplaire comme il y a des chasses à l'homme ?
Alors, j'espère pas en fait, parce qu'on a imprimé énormément. Donc,
À combien d'exemplaires avez-vous tiré le nouveau numéro consacré à l'affaire ?
On en a fait plus de 100 000 en première impression sur le numéro 2. Donc je pense que ça devrait contenter tout le monde. Si c'est pas le cas, on réimprimera. Mm-hmm. Mais je pense que ça devrait aller là.
Ah, oui, ça devrait aller. Pour le numéro 1, où il y avait eu pénurie, à combien d'exemplaires êtes-vous vendu à ce jour ?
Vendu, on ne sait pas. En impression, on en a fait 70 plus 30, plus là, on réimprime encore 30.
Mmh. Ça veut dire que votre record, qui est, je crois bien, de 100 000 exemplaires vendus, c'était le premier numéro de Society, est en passe d'être battu.
Oh, on verra. On n'y est pas encore.
Ah, vous êtes superstitieux en plus ?
J'aimerais bien. Pardon ?
Vous êtes superstitieux en plus ?
Ouais, je suis de nature pas très optimiste en règle générale.
Mmh.
Je suis plutôt à me dire il vaut mieux prévoir le pire, et puis si le meilleur arrive, tant mieux.
Alors c'est un peu compliqué, Franck Hanez, cette affaire, un peu comme un pulse. Il y a deux hypothèses. Soit ce second numéro, vous le sous-estimez un peu, ce qui n'est pas le cas visiblement, hein, risque d'être soupçonné d'organiser le manque. Soit vous mettez le super paquet, c'est la stratégie que vous semblez avoir choisie, au risque éventuellement de perdre de l'argent. C'est pas facile, hein, des problèmes de riches comme ça là.
Non, là on perdra pas d'argent. Pour une fois, on est bien tranquille à ce niveau-là. Je pense que il va très bien marcher. J'ai pas trop de doute. J'ai pas trop de doute là-dessus. Le petit facteur qu'on ignore, c'est le nombre de points de vente qui seront fermés pour cause de mois d'août. En fait, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tiré encore plus que ce qu'on a tiré là, parce qu'il y a beaucoup de fermetures de points de vente qui sont pas forcément renseignées en amont, et puis qui vont avoir lieu au cours du mois d'août, donc qu'on ne peut pas ni anticiper ni maîtriser, donc forcément il va y avoir un peu de déperdition à ce niveau-là, mais autrement ça va bien se passer.
Comment expliquer ce spectaculaire engouement ? Vous ne l'aviez pas prévu, enfin, j'imagine. Est-ce que vous avez eu le temps d'y penser forcément ? Quelles sont les hypothèses ?
En fait, déjà, je pense que, on savait qu'il marcherait bien dans l'absolu, donc ça, on était plutôt confiant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait fait en deux numéros, aussi parce que l'entrée était très dense. Hein. Le premier numéro, il y avait 34 ou 36 pages, et là, il y en a 42.
Mm-hmm.
Donc ça fait 250 000 signes au total, quoi. Donc c'est assez énorme.
Oui, mais ça ne suffit pas parfois. C'est pas parce que vous avez beaucoup travaillé, mis beaucoup de moyens, que ça répond de l'autre côté.
Non, c'est vrai. C'est vrai, mais je crois que c'est une affaire qui passionne vraiment les Français, qu'il y a eu beaucoup de choses de faites sur Xavier Dupont-Ligonnès, mais à chaque fois, c'était un peu finalement des redites, et il y a eu un documentaire Netflix il n'y a pas longtemps qui est sorti et qui était très pauvre. Et donc je pense que ça a généré encore plus de frustration, c'est-à-dire que les gens se disaient, à chaque fois qu'on nous parle de ce mec, finalement, on n'apprend rien. Et donc nous, on est sortis avec finalement beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de choses à apprendre. Et encore plus dans la deuxième partie. Donc du coup, je pense que ça nourrit le succès. Et puis, Xavier Dupont-Ligonnès, c'est une affaire qui, dans Society, est une sorte de, de marronnier, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Les lecteurs de Society savent qu'on le piste et qu'on est derrière ces traces depuis 4 ans. Donc, il y avait une attente à ce niveau-là. Donc, il y avait déjà la fanbase qui savait que si on sortait quelque chose sur Xavier Dupont-Ligonnès, c'était pas pour sortir un énième résumé de l'affaire, en fait. C'est qu'on aurait des choses nouvelles. Ce qui est le cas, et d'ailleurs la deuxième partie a priori donnera lieu à des réouvertures, enfin à des nouvelles pistes pour l'enquête.
Oui, on va parler du contenu, enfin sans trop dévoiler évidemment, parce que vous n'aimeriez pas.
Non.
Mais encore quelques instants sur l'aspect marketing des choses.
Ouais.
Vous avez surfé quand même sur le manque, on peut pas dire l'inverse.
Bah, disons qu'une fois qu'on a vu qu'il y avait un petit manque, on n'a pas forcément surfé dessus, mais par contre on a été très présent en service après-vente. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation de la rédaction pour prendre le relais sur le compte Society officiel, sur Twitter, sur Instagram, etc. Nos comptes perso aussi ont été actifs pour renseigner les gens et pour essayer de leur dire, bah voilà, allez à ce point de vente là. On a essayé de mobiliser aussi ceux qui cherchaient pour que dès qu'ils trouvaient un point de vente où il y en avait, ils puissent communiquer aux autres. Parce qu'en fait, nous, le problème, c'est pas tant pour d'un point de vue marketing ou quoi que ce soit, c'est que il y a des points de vente qui, par exemple, Gare de Lyon, on sait qu'ils en avaient, à Paris, Gare de Lyon, ils en ont reçu 1700 ou 1800 et ils les ont tous vendus en très peu de temps. Donc c'est super, mais en même temps on se dit merde, ça veut dire que à Gare de Lyon ils ont tout vendu, mais si ça se trouve il y a des points de vente où en fait ils en ont pas vendu du tout. Donc il faut réussir à rebasculer les gens qui cherchent, qui vont tous au même point de vente, à les emmener sur les points de vente où ils vont un peu moins et où il en reste, en fait.
Mmh.
Et hier il y avait encore 5000 points de vente où il en restait, donc du coup on a fait un fichier Excel qu'on a partagé à tout le monde via un lien Google Doc pour permettre à tous les gens qui cherchaient d'avoir encore des points de vente ouverts et savoir quel point de vente on avait encore, etc., etc. Donc on fait une espèce de travail de minutie pour essayer d'orienter les gens et pour essayer de finalement vendre tous les exemplaires qui sont mis en vente.
Et vous avez même donné votre 06 sur les réseaux sociaux, hein, pour que les kiosquiers, ouais, ou les maisons de la presse vous appellent. Il y a eu quelques abus probablement, non ?
Non, pas. Non, j'ai eu quelques SMS un peu bizarres et quelques coups de fil un peu étranges, mais qui n'étaient pas des coups de fil méchants, en fait. C'était juste des gens qui finalement se disent, il a laissé son 06, donc c'est notre pote. Et donc qui m'appellent et qui me parlent comme si j'étais leur pote, et ça ne dérange pas du tout d'ailleurs par ailleurs, mais qui par contre sont pas des marchands, donc des fois c'est un peu bizarre et des fois il y a confusion, donc au bout d'un moment je leur dis mais en fait vous êtes marchand de presse? Ah non, pas du tout. Je dis, ah bon, d'accord, ok, mais ça fait dix minutes qu'on vous me racontez vos histoires, je peux pas trop vous aider, mais donc c'est bon, après c'est le jeu, mais par contre ça a permis à pas mal de marchands de presse de pouvoir faire du réassort plus rapidement.
On va rentrer dans le fond de l'enquête dans deux minutes, Franck Hanez, la vôtre du coup. Et là, c'est comme si je disais, restez là, dans deux minutes après la pub, Society a-t-il retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès ? A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
42 nouvelles pages, 100 000 signes supplémentaires. C'est demain que sort le second volet de l'enquête méga format que Society consacre à l'affaire de la disparition de Xavier Dupont-Ligonnès. Rappel, en 2011 à Nantes, cet homme issu d'un milieu bourgeois et très catho avait tué sa femme, ses 4 enfants et les 2 chiens avant de disparaître. Pour l'heure, définitivement. Franck Hanez, patron de Sopress, vous avez mis de gros moyens sur cette histoire. 4 journalistes pendant 4 ans avez-vous décrit, pas tout le temps quand même, si ?
Non, ils n'étaient pas à plein temps, mais de manière relativement assidue.
Pourquoi cette obsession pour une affaire quand même très très couverte ?
Parce qu'on ne l'a pas retrouvé, déjà. Donc, tant qu'il est encore disparu, le sujet est intéressant. Il y a un truc qui est... Aujourd'hui, disparaître en 2020, ce n'est pas comme disparaître en 1975. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer qu'avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les gens qui filment tout ce qui se passe, etc., etc., ça devient compliqué de disparaître. Et pourtant, ce mec a disparu, donc... Il y a une espèce de... Notre logique bute sur quelque chose et donc on a envie de résoudre ce problème, quoi.
Mais plaisanterie,
et par ailleurs, c'est un cas...
Ouais, plaisanterie mise à part, quand vous attaquez cette enquête, vous voulez vraiment le retrouver?
Bien sûr. Mais on veut toujours le retrouver, hein.
Oui, mais la police a échoué.
Bah, la police a échoué, mais la police, à partir du moment où Xavier Dupont-Ligonnès a entre guillemets fait son œuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne représente plus une menace pour la société, donc la police n'a pas des moyens démesurés à mettre en œuvre pour retrouver Xavier Dupont-Ligonnès. Il est plus dangereux pour la société. Donc du coup, ils n'interviennent que s'il y a des nouveaux signalements, par exemple, ou des nouvelles pistes. Donc ils interviennent finalement de manière très rare, et la dernière fois qu'ils sont intervenus d'ailleurs, c'était relativement catastrophique, les pauvres. Même si c'était pas même si c'était pas la police française qui était concernée, puisque les enquêteurs de Nantes sont très pointus et précis sur le sujet, et ils se seraient jamais fait berner eux. Mais en l'occurrence, les policiers écossais se sont fait berner. Donc du coup, ils cherchent pas plus que ça finalement. Enfin, ils ont pas, il y a pas cinq flics en permanence qui sont sur le dossier et qui tracent Xavier Dupont-Ligonnès. Donc finalement, on a presque plus de moyens que nous en tant que journalistes pour faire avancer certaines pistes ou pour ouvrir des nouvelles pistes. Après, il y a des moyens qu'on n'a pas. C'est-à-dire que nous, quand on interroge quelqu'un, c'est une interview, c'est pas un interrogatoire. On peut pas, on n'a pas les moyens de la police. Donc,
mais il y a quand même un parallèle. On sent bien votre longue enquête. Elle est en bonne entente avec la police. Parfois même, vous avez retrouvé, notamment dans le numéro 2, un témoin, en l'occurrence un garagiste très proche de Ligonnès, et il était presque vexé de ne pas avoir été interrogé par la police. Ça se croise quand même.
Il va l'être.
Ah, il va l'être,
oui. ça se croise. C'est... Nous, on fait notre rôle de journaliste, c'est-à-dire que on cherche à faire avancer l'enquête autant qu'on le peut. Après, on n'est pas policier, on n'a pas pouvoir de justice. Donc, quand on a des pistes ou quand on a des témoins ou quand on a des, on creuse, et puis au bout d'un moment, on peut plus creuser. On va pas enfermer les gens dans une cave et les forcer à nous parler, quoi. Donc du coup, au bout d'un moment, on finit par dire à la police, on a telle personne, on a telle piste, on a ça qui est un élément nouveau. Nous, on peut pas aller plus loin au jour d'aujourd'hui parce que les moyens journalistiques dont on dispose sont heureusement limités. On n'a pas pouvoir de justice, on n'a pas pouvoir de police. Maintenant, à vous de pouvoir continuer le travail, quoi. Et puis après, nous, on reprendra la suite quand la police aura fait son œuvre, et suivant là où ils sont, là où ils auront abouti, nous, on pourra continuer derrière notre enquête, quoi. Et puis il y a d'autres éléments d'ailleurs qui sont pas encore mentionnés dans l'enquête, qu'on continue d'explorer. Là, on raconte dans cette partie 2 toutes les pistes possibles partout où on arrive. Et puis après, je pense que le lecteur se fait aussi sa petite idée, et nous, on se fait aussi notre petite idée. Il y a des pistes qu'on va continuer à explorer à présent.
Bon, faut que je vous pose maintenant la question officiellement. Franck Hanez.
Non, on n'a pas retrouvé.
Society a-t-il retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès?
Non, pas encore. Mais on se rapproche.
Enfin, vous rapprochez, non. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas.
Non, on ne l'a pas. Mais on se rapproche. Mais il y a même des moments où on a bien cru trouver la solution.
Que révélez-vous dans la seconde partie de l'enquête qui paraît demain? Je l'ai lu.
Je ne peux pas le dire.
Non, mais des petites bricoles quand même.
Je peux dire que non, on explore pas mal de nouvelles pistes. On creuse aussi des pistes familiales très fortes, et on les creuse de manière très pointue, quoi. Je pense que on apprend autant sur la première partie. Il y avait un côté où on était obligé de redonner un peu les grandes lignes de l'affaire, parce qu'il fallait aussi prendre en compte les gens qui ne connaissaient pas du tout l'affaire. Donc quelqu'un qui connaissait très bien l'affaire a peut-être pas appris autant qu'il aurait aimé sur la première partie. Autant sur la deuxième partie, je pense que tout ce qui a été produit aujourd'hui sur Xavier Dupont-Ligonnès s'arrête à notre première partie, en fait. Toute la deuxième partie, c'est quasiment c'est 99% de neuf, quoi. C'est 99% de révélation. Et on suit vraiment l'enquête. Donc, on comprend un peu qui sont les différents suspects, suspects de complicité, on va dire. On suit ces pistes-là. Et puis, on apprend aussi quelque chose d'assez fort et qui prend un peu de hauteur par rapport à un fait divers comme celui-ci, c'est que Xavier Dupont-Ligonnès ne s'est pas contenté de tuer 5 personnes, en fait. Il a fait plus de mal que ça. C'est-à-dire que il y a des proches qui ont énormément souffert jusqu'à se suicider.
Oui, les effets collatéraux, en quelque sorte.
Il y a des dommages collatéraux très, très, très forts, quoi.
Sans dévoiler, on peut dire qu'il y a des délais religieux quand même et même sectaires dans l'histoire, le déni d'une partie de la famille. Et aussi, je dois dire, et là, vous allez voir, ça va faire vendre, vous avez des révélations sexuelles.
C'est vrai.
Non, mais c'est étonnant, hein, sérieusement.
Ah bah il y a du ouais c'est bah
hey,
c'est
vous, c'est le roi c'est du marketing là, allez-y Franck-Anaise, mais
je peux pas aller sur ce sujet de manière trop outrancière, mais effectivement oui, je pense qu'il y a pas mal de reprises, enfin en tout cas de tweets sur sur le sujet, et encore on a pour être tout à fait honnête, on a les mails dans leur entièreté. C'est fou. Enfin, on n'a pas tout mis dans le magazine, parce qu'il y a un moment donné, la décence fait que
ça devient un peu
hors sujet. Merci. Aussi. C'est-à-dire que,
merci voilà. Beaucoup d'avoir été en ligne, Society, demain dans les kiosques. Et on vient d'avoir un coup de fil de Xavier Dupont-Ligonnès, il aimerait bien que le record de ventes soit battu. Merci Franck-Anaise.
Bah,
bel été, c'est bien parti.